VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Tchad, prestation de serment des membres du gouvernement de la 4e République ce matin au palais présidentiel en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno et des membres de la Cour suprême. La formule de cette prestation divise les ministres chrétiens et musulmans. À preuve, Mme Guibert Diamant-Rosine, ministre de l'Aviation civile, a refusé de prêter serment en évoquant sa foi chrétienne. Très remonté, le président Idriss Déby Itno l'a automatiquement remplacé à son poste. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko, actuellement jugé dans la capitale pour atteinte à la sûreté de l'État, a prévenu qu'il ne plierait pas. Les précisions d'Abdourahman Dia.
Les réquisitions sont attendues demain dans son procès qui a commencé lundi devant la cour criminelle. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a choisi de se taire aux audiences. Son avocat dit qu'il a une immunité juridique qui a été rejetée par la Cour suprême. Dans une lettre datée du 8 mai, l'ex-chef d'état-major de l'armée congolaise et ancien conseiller du président Denis Sassou Nguesso accuse la dictature de vouloir l'achever par un simulacre de procès inique. Mardi, la Cour a diffusé une vidéo datant de 2007 qui était censée l'incriminer. Elle a été rendue publique en 2016 quand le général avait lancé sa candidature à la présidentielle. L'officier avait terminé troisième de la course. Après ce vote, il n'avait pas reconnu la victoire du président sortant et avait appelé à la désobéissance civile. À Brazzaville, deux militants du mouvement citoyen Ras-le-Bol ont été arrêtés alors qu'ils placardaient des affiches « Libérer les prisonniers politiques ».
En République démocratique du Congo, début à Kinshasa de l'audit international du fichier électoral avec la composition d'un comité mixte comprenant les experts de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que les délégués de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Cet audit, qui vise à rassurer toutes les parties prenantes à 8 mois des élections, se poursuivra selon le calendrier électoral jusqu'au 25 mai. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce comité comprend 26 membres, parmi lesquels 5 experts de l'Organisation internationale de la francophonie, 3 délégués de l'opposition, 3 de la majorité présidentielle, 4 des partenaires internationaux, 4 de la société civile et 7 de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes à notre 10, 11 ou 12e expérience en Afrique et nous en sommes fiers. Nous sommes contents parce que nous constatons qu'il y a inclusivité. Les délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile sont là. Nous souhaitons qu'il y ait transparence et nous voulons un travail sérieux, a déclaré le général Siaka Sangaré, chef de la délégation de l'OIF, qui a par ailleurs appelé la CENI à leur faciliter la tâche en mettant à la disposition des experts l'ensemble des données pour assurer une meilleure évaluation. De son côté, Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est félicité de l'exécution du calendrier électoral à travers cette expertise. Preuve, selon lui, que la République démocratique du Congo est en bonne voie vers les élections. Signalons que les délégués de l'opposition, de la majorité présidentielle et de la société civile ont un statut d'observateur, étant donné que le travail technique est confié aux experts de l'OIF. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, 4 nouveaux cas d'Ebola, parmi lesquels 2 membres du personnel soignant ont été enregistrés mercredi à Bikoro, épicentre de la nouvelle épidémie qui s'est déclarée dans le nord-ouest du pays. La maladie circonscrite dans la région de Bikoro, située dans la province de l'Équateur, au nord-est de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville, a déjà fait 17 morts sur un total de 25 cas. Au Mozambique, le chef de l'opposition mozambicaine et ancien guerriero Afonso Dhlakama, décédé le 3 mai des suites d'une maladie, a été enterré ce jeudi dans son village natal de Magunde, dans le centre-est du pays, en présence de centaines de fidèles. Le leader de la RENAMO, la résistance nationale du Mozambique, est mort à l'âge de 65 ans dans les montagnes de Gorongosa, où il vivait retranché depuis 2015. Ancienne guérilla, transformée en parti politique à la fin de la guerre civile qui a duré de 1976 à 1992, la RENAMO avait repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise du parti au pouvoir, le Frelimo, sur le pays. Mais Afonso Dhlakama et le président mozambicain Philippe Nyusi avaient récemment engagé des négociations de paix.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
Au Ghana, 4 juges accusés d'avoir accepté des pots de vin ont été suspendus. L'annonce a été faite par la présidence ghanéenne qui enquêtait sur un scandale de corruption au sein du système judiciaire. Yacouba Ouédraogo.
Le président Nana Akufo-Addo s'est prononcé après avoir reçu les conclusions d'un comité de discipline qui a engagé des poursuites à l'encontre de 12 juges de la Haute Cour. Eugène Harine, porte-parole de la présidence, a déclaré que cette suspension fait suite à l'établissement d'une preuve irréfutable contre les 4 juges par le comité mis en place pour enquêter sur les présumés actes de corruption. Les 4 juges ont été enregistrés sur le fait en 2015 par un journaliste qui leur proposait des pots de vin pour influencer des affaires en cours. Le journaliste Anas Aremeyaï a filmé 100 juges ou fonctionnaires acceptant des pots de vin. Habitué des actions coup de poing, il se déguise pour dénoncer les violations des droits de l'homme ou la corruption. Ces enquêtes ont fait de lui une célébrité au Ghana, bien que personne n'ait jamais vu son visage. 20 magistrats ont déjà été limogés.
Inondation au Kenya, la rupture d'un barrage dans le centre du pays mercredi soir a fait au moins 27 morts emportés dans leur sommeil par des eaux tumultueuses en pleine saison des pluies qui a fait un total de près de 160 morts depuis mars dans le pays. Le drame s'est produit près de la ville de Nakuru, à environ 150 km au nord de la capitale Nairobi. Actualité aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump a accueilli tôt ce jeudi près de Washington les 3 Américains libérés par Pyongyang, une image en pleine nuit, forte et chargée de symboles à l'approche de sa rencontre au sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Et toujours concernant l'actualité américaine, que va-t-il se passer après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien ? Pour Walid Fares, ancien conseiller aux affaires étrangères du président Trump, les États-Unis vont remobiliser dans les mois à venir leurs partenaires pour une renégociation de l'accord. On l'écoute au micro de Bagassi Koura.
La position de Trump est de générer, de créer de nouvelles données qui vont obliger les partenaires internationaux à revenir sur la table de négociation, pas aller vers une confrontation, mais de produire un document plus équilibré.
En Europe et aussi en Iran, on s'active à ce que l'accord soit maintenu. Comment vous comptez convaincre les Européens?
L'Iran, bien sûr, le commandement iranien va continuer à vouloir profiter de l'accord parce que c'est surtout à travers ce traité que l'Iran est en train de pouvoir faire rentrer des sommes financières et du cash, comme on dit. Les Européens, eux, savent que les États-Unis s'opposent au traité initial, mais savent aussi que les partenaires arabes des États-Unis aussi sont gênés. Donc les Européens maintenant, ils vont continuer à faire leurs obligations financières en ce qui concerne l'Iran. Probablement au bout de 6 mois, il va y avoir de nouvelles tractations, de nouvelles négociations. Parce que, en fin de compte, ce traité n'était pas à propos de sécurité, mais à propos d'arrangements financiers. La réalité sur le terrain. Parce que la question nucléaire elle-même, personne ne s'y oppose. Que l'Iran ne fasse plus de bombes, c'est quelque chose où il y a beaucoup de consensus. Mais maintenant, il faut trouver donc un nouveau équilibre entre ces 3 parties, l'Europe, les États-Unis, les pays du Proche-Orient, pour pouvoir revenir sur la table. La Russie, je pense, va rester là où elle était, donc faire du business avec l'Iran, il n'y aura pas de problème, y compris la Chine.
Il y a des tensions à plusieurs niveaux avec les partenaires européens, d'abord au niveau de l'OTAN, ensuite au niveau commercial avec les tarifs sur l'acier, et maintenant sur l'accord nucléaire. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui accusent Donald Trump d'avoir saboté les relations transatlantique?
C'est son opposition, ce n'est pas des partis neutres, ils l'ont toujours fait depuis la campagne. Maintenant, bien sûr, l'accord iranien est autre chose, parce qu'il y a des intérêts financiers, les banques européennes, les compagnies européennes ont un intérêt à sauvegarder. Il leur est offert une autre voie de pouvoir accommoder, ils le feront. Mais je pense que c'est un peu tôt maintenant. L'Amérique va se réorganiser, surtout au niveau interne avec le Congrès. On a des élections qui viennent dans quelques mois. Et après cela, je pense qu'il va y avoir un sommet euro-américain et arabe pour ramener les choses dans le bon sens au Proche-Orient.
Walid Fares, ancien conseiller aux affaires étrangères du président Donald Trump. Et pour terminer, conflit en Syrie, l'administration Trump a dénoncé ce jeudi les tirs de roquettes iraniens sur des positions israéliennes en soutenant le droit d'Israël à agir pour se défendre. Les États-Unis condamnent les attaques provocatrices à la roquette du régime iranien depuis la Syrie contre des citoyens israéliens. Et nous soutenons avec force le droit d'Israël à agir pour se défendre, a affirmé la Maison-Blanche dans un communiqué. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.